Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans l'Évangile de Jean, les chapitres 1, les versets 1 à 14. Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, bien entendu, le verset 14 est d'une importance capitale dans le sujet qu'on veut étudier aujourd'hui. C'est vraiment le sujet de l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, j'ai divisé le message en trois, comme d'habitude, on est très conservateur. Alors, l'incarnation de Jésus-Christ, un mystère, c'est le premier point qu'on va regarder. L'incarnation de Jésus-Christ, une nécessité. Est-ce que c'était nécessaire que Jésus-Christ s'incarne dans une chair d'homme pour assurer le salut des élus? Et la troisième, une bénédiction. En quoi cette incarnation de Jésus-Christ a amené sur nous une pluie de bénédictions? Et on va regarder ça, bien entendu, superficiellement, mais on va essayer de faire notre mieux pour élever nos esprits, pour comprendre la nature de l'incarnation. Alors, bien souvent, est-ce que aujourd'hui on voit autour de nous que la fête de Noël, c'est bien souvent résumé en quelques réjouissances familiales, en des repas, bien entendu, tout ça est bien agréable, mais bien souvent, le nom de Jésus n'est même pas mentionné dans aucune des fêtes familiales. C'est devenu une fête réellement païenne. Bien entendu, on ne peut pas se dire qu'on fête le 25 décembre, c'est véritablement la date de la naissance de Jésus-Christ, parce que selon la plupart des grands théologiens, on dit que ce serait plutôt aux alentours du 5 ou 6 janvier. Mais c'est avec l'histoire, on a fini par donner une date qui était le 25 décembre. Mais aujourd'hui, les gens ont complètement presque exclu le rappel de la naissance de Jésus. Et on a tout mis sur le matériel, on a tout mis sur les cadeaux. On a même introduit un personnage mythique qui est le Père Noël. Alors, c'est vraiment, on a dénaturé une fête qui était de nature religieuse, de nature biblique, et on l'a vraiment complètement dénaturé. Tout à l'heure, Jean disait que la fête de Noël, c'est véritablement le message le plus merveilleux que le monde n'ait jamais entendu. Et quand je me suis servi de quelques livres pour... y en a un que j'ai trouvé qui disait « Ça vaudrait la peine que tu retournes lire... un auteur que j'ai utilisé qui dit que, selon lui, le mystère de l'incarnation est le plus grand des mystères de toutes les Écritures. Et aujourd'hui, on commence de plus en plus à des courants de libéralistes, c'est-à-dire des gens, des incroyants, qui ont voulu dénaturer encore plus, qui ont voulu exclure la possibilité que ça soit vrai, que Dieu lui-même s'est incarné dans une chair d'enfant par le miracle du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, bien souvent, on rejette la doctrine de la naissance virginale. On rejette la possibilité que Dieu lui-même, dans ses attributs infinis, puisse s'être uni avec une chair d'homme. Et si on nie ça, bien, on nie quelque chose de tellement fondamental que tout le reste de la Bible ne tient plus debout. Alors, c'est vraiment important de savoir, d'avoir une bonne... Alors, c'est quoi le message, dans le fond, de l'incarnation? La Bible affirme quelque chose d'absolument stupéfiant. Jésus de Nazareth, celui qui allait fixer notre destinée éternelle, du moins celle des croyants, et même celle des incroyants, parce que c'est le fait de ne pas croire en lui qui fait en sorte que tu vas aller au mauvais endroit. Alors, il revêtait notre humanité sans perdre sa divinité. Et quand quelqu'un se met à étudier ça, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans des livres de théologie ou dans n'importe quel livre, ce qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est que au cours des siècles, les gens ont cherché à comprendre comment Dieu pouvait s'être incarné dans une chair d'homme sans perdre sa divinité. Un exemple, on va dire, il y a des endroits dans les Écritures qui disent que Jésus ne savait pas la date de la fin du monde ou certaines choses. Et on dit, c'est pas possible qu'il soit pleinement Dieu s'il n'était pas omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaissait absolument tout. À ce moment-là, la kénose, c'est qu'on cherche à expliquer ce phénomène-là qui est mystérieux en soi, qui ne peut être saisi pleinement que par la foi. On cherche à dire, ben, à ce moment-là, non, c'est pas possible que Dieu soit pleinement Dieu et qu'il se soit incarné dans une chair d'homme. Et là, on laisse la raison aller au-dessus des Écritures. L'incarnation, la prédestination, la Trinité, bien souvent, si on laisse la raison aller au-dessus des Écritures, les Écritures nous révèlent quelque chose qui est difficile à saisir, qui est dur à comprendre, qu'on ne peut accepter que par la foi. Alors, si on s'écarte de ça, c'est sûr qu'on va vraiment... Alors, comprendre que Jésus, par son incarnation, gardait sa divinité dans sa plénitude. La difficulté, c'est d'expliquer comment ça se fait qu'il disait quelque part, dans sa vie terrestre, que certaines affaires, mais il pouvait ignorer volontairement, sans que sa divinité en soit affectée. Alors, il faut garder à l'esprit de croire les Écritures telles qu'elles sont dites, sans chercher à vouloir tout comprendre et tout expliquer. Si quelqu'un, je pense, bon, qui vient de m'expliquer la doctrine de la Trinité dans les détails, on ne peut pas. Il arrive à un moment donné, les Écritures nous donnent des faits, et la seule chose qu'on peut faire, c'est les accepter par la foi. Autant la création, autant la prédestination, autant l'élection, autant l'incarnation et beaucoup d'autres doctrines. Il y a un moment donné, c'est que c'est la foi qui fait en sorte qu'on adhère ou on n'adhère pas. Par le mystère de l'incarnation, on est en fait face à deux mystères. Celui d'une pluralité de personnes dans l'unité de Dieu, donc la Trinité. Comment ça se fait que Dieu, il y a trois personnes en lui, puis qu'il y a une personne, le Fils de Dieu, la deuxième personne, est venue sur la terre s'incarner dans une chair, venue au monde dans une chair de bébé, qui avait été... Et tout ça aussi, aujourd'hui, on dit que... Jésus, on dit dans les Écritures qu'elle n'avait pas connu d'homme, on a lu le texte ce matin, elle n'avait pas couché avec son mari. Donc, il avait été conçu par le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on cherche à... Mais si on enlève le côté merveilleux et les affirmations des Écritures, on fait fausse route, ça c'est sûr et certain. Avec l'incarnation de Jésus-Christ, vraiment, on touche aux profondeurs les plus insondables de la révélation chrétienne. C'est pas une petite affirmation, ça, là. Alors, la fête de Noël devrait nous amener à approfondir ce qu'a impliqué pour le Fils de Dieu le fait de se dépouiller lui-même et de se faire pauvre. Imaginez-vous, Dieu, il dit que toutes les choses qui ont été créées lui appartiennent. Venir sur cette terre, on a lu tantôt dans nos chants, venir au monde dans une étable, c'est-tu s'appauvrir, ça? C'est-tu... C'est-tu se dépouiller? Alors, c'est un dépouillement vraiment extraordinaire. Alors, il avait abandonné sa gloire, il avait restreint volontairement sa puissance, parce que durant tout le temps qu'il était sur la terre, on parle à peu près 33 ans, il a manifesté sa puissance à différents endroits, ressuscité des morts, calmé la mer, bien d'autres choses, bien d'autres miracles. Mais il ne l'a pas, quand il était sur la croix, par exemple, où on lui disait, « Descends de cette croix, et là, on va croire que tu es le Messie. » Il n'a pas descendu. Il aurait pu descendre, mais il n'a pas voulu descendre parce qu'il accomplissait ce qui était prédit sur lui. Alors, il a accepté l'épreuve, parce que toute sa vie sur cette terre a été une vie d'épreuve, a été une vie d'isolement aussi. Parce qu'à la fin, même ses apôtres l'ont abandonné, il était complètement seul. Dans le jardin de Gethsémani, là, il était complètement seul. Donc, l'isolement, il a connu les mauvais traitements comme homme. On l'a flagellé, on l'a frappé, on l'a cloué sur une croix, on l'a craché au visage, on l'a méprisé, on l'a haï, etc. Il a connu la méchanceté des hommes, il a connu l'incompréhension, et finalement, il a connu la mort. Ça aussi, c'est un autre mystère. Comment un corps dans lequel habite la divinité, mais c'était l'homme qui mourait, non pas Dieu. Alors, faut vraiment faire la part des choses. Alors, une mort dont l'agonie, plus spirituelle que physique, parce que bien sûr, on sait que Christ est mort sur la croix comme homme, c'est son humanité qui est morte, mais la divinité, tu ne peux pas tuer la divinité, c'est impossible. Alors, la seule perspective de penser à ce qui s'en venait du jugement que Dieu le Père était pour faire tomber sur lui, si vous vous souvenez, dans le livre dans le jardin de Gethsémani, ça a failli l'écraser. Il était vraiment là, Dieu lui a fait voir, avant qu'il rentre dans sa passion, que lui a fait voir ce qu'il était pour subir, et vraiment, quand on dit que ça lui créait une angoisse telle que de son corps même sortaient des grumeaux de sang, c'était pas une angoisse ordinaire. Alors, quand on regarde ça, c'est que Dieu lui-même s'est incarné dans une chair d'homme, donc il s'est appauvri, afin, comme disent les Écritures, que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc, Noël, dans le fond, c'est l'annonce d'un espoir pour une humanité déchue, un espoir de pardon, un espoir de paix, un espoir de gloire aussi, parce qu'actuellement, on a eu notre pardon, on a la paix avec Dieu, mais on sait qu'on va vivre avec lui dans la gloire aussi. Parce que, conformément à la volonté du Père, Jésus-Christ s'est fait pauvre, il est né dans une étable pour pouvoir, 30 ans plus tard, être mis en croix. Donc, de la crèche à la croix, tout a commencé, la question du salut en Jésus-Christ, tout a commencé à la crèche pour se terminer à la croix, mais à la croix, c'était pas terminé encore, parce qu'il y a eu la résurrection, il y a eu l'ascension, et aujourd'hui, on nous dit que Jésus-Christ est encore dans le ciel, et il fait encore des choses pour nous. C'est ce qu'on va le voir tantôt dans les bénédictions que tout cela nous a apportées. Donc, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment l'incarnation, un mystère. Alors, le Nouveau Testament, quand on vient de lire Jean 1 à 14, nous apprend deux choses concernant l'identité du bébé qui était né à Bethléem selon la prophétie. Tantôt, on l'a vu, il y avait un verset sur le mur, on a vu, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es la plus petite d'entre les de Judas, de toi, d'être le sauveur. » C'était une prophétie dans Michée, chapitre 5, verset 1, qui nous disait l'endroit même où Jésus était pour venir au monde. Alors, le bébé qui est venu à Bethléem, quand on y pense comme il faut, la plénitude de la divinité, parce qu'ordinairement, quand on étudie la théologie, on voit approximativement 25 attributs de Dieu qui sont infinis, ça c'est dur à imaginer pour nous aussi, qui vient s'incarner. Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient s'incarner dans un bébé Et le bébé qui était là, qui est venu au monde dans un étable où il faisait froid, c'était incroyable. Il y a quelque chose de tellement extraordinaire là-dedans. Alors, le bébé né à Bethléem était Dieu. Quand on regarde dans les versets 1 à 14 de Jean chapitre 1, il y a sept choses qui nous sont mentionnées sur la parole de Dieu. Quand on parle dans le verset 1, par exemple, ça dit « Au commencement était la parole ». Alors, on n'utilise pas le mot « Fils de Dieu » tout de suite. On parle de la parole, parce que pour les Hébreux, la parole avait une connotation bien particulière. Celle qu'on a vue, par exemple, quand on étudie le livre de la Genèse, la parole était la parole créatrice. Alors, ils n'utilisent pas le mot « Fils de Dieu » tout de suite, ils utilisent plutôt la parole, pour que dans l'esprit des Hébreux, il n'y ait pas de confusion. Alors, l'apôtre nous dit « Au commencement était la parole » dans le verset 1, Ça vient établir le caractère éternel de la parole. Au commencement était la parole. Donc, avant même que Jésus vienne s'incarner dans une chair d'homme, c'était le Jésus, le Fils de Dieu, éternel. Il avait toujours existé avant. Donc, ça a établi le caractère éternel de la parole, que cette parole n'avait pas eu de commencement. Quand tout a commencé, elle était déjà là avant. Donc, déjà dans le verset 1 de Jean 1, on voit le caractère éternel de la parole, donc de Jésus, qui était là avant même que tout cela existe, avant même que la terre existe. Et après ça, on voit dans le verset 1 également, « Et la parole était avec Dieu ». Donc, il y a une autre chose qui est établie, c'est le caractère personnel de la parole. Donc, il était avec, pour être avec, il faut que tu sois une personne, toi aussi. Donc, on le dit, la doctrine de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, la parole, c'était la deuxième personne de la Trinité, et elle était avec Dieu. Elle était éternelle, elle était avec Dieu, avant même que le monde existe. Et après ça, le verset 3, c'est-à-dire la troisième chose qu'on apprend dans ce passage-là, et la parole était Dieu. Donc, la parole, la deuxième personne de la Trinité, Jésus, le Christ qui s'est incarné, était Dieu. Donc, la doctrine de la déité ou de la divinité de Jésus-Christ est très solidement établie dans les Saintes Écritures. Donc, la parole était Dieu, ça a établi la nature divine de la parole, qui, bien que distincte de celle du Père, en tant que personne, n'est pas une créature. Donc, Jésus-Christ, en venant sur la terre, était éternel, il a un caractère personnel, était une des trois personnes, mais ça établit sa nature divine, donc ce n'est pas une créature. Donc, si, même si à l'apparence, quelqu'un aurait vu sortir l'enfant de Marie, ça aurait eu l'air d'une créature. Mais dans un sens, il était humain, mais ce n'était pas une créature. La combinaison de la divinité et de l'humanité faisait en sorte qu'il avait un caractère très spécial, unique. L'homme-Dieu, l'homme Jésus-Christ pleinement homme, Dieu pleinement Dieu avec un trait d'union, c'est ce qui fait la personne de Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu. Alors, ça l'amène toute une série de problèmes. Quand vous allez étudier la théologie sur ça, l'incarnation, la kénose, toutes ces affaires-là, les théologiens ont développé toute une série de... Et c'est très intéressant à étudier, parce que bien souvent, mais peut-être la meilleure façon, c'est tout simplement de prendre les Écritures telles qu'elles sont, puis de les croire. Il y a une quatrième chose que ce passage-là veut nous écrire, veut nous instruire, c'est dans le verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle. » Donc, il est en train de nous dire que Jésus est le Créateur. Souvent, la Bible nous dit que le Père est le Créateur, mais le Fils est le Créateur, selon le verset 3, et l'Esprit, parce que quand on est en train d'étudier Genèse, on a vu que l'Esprit aussi participe. Donc, quand il y a une œuvre divine, il y a toujours une participation des trois personnes. Et ça nous dit très clairement, toutes choses ont été faites par elle. Donc Jésus-Christ est le Créateur. Il a participé à la création de l'univers. Quand on a regardé un petit peu la grandeur de l'univers, quand on a étudié la Genèse, pour créer ça, faut que tu sois puissant ou non? Tout puissant. Alors ça, le verset 3, ça vient établir l'action créatrice de la parole. Tu sais, quand on a vu dans Genèse, et Dieu dit, et ça existe. Donc, ça ne prend pas une puissance ordinaire pour faire ça. Là. Et ça, c'était Christ qui est venu sur la terre. Donc, cette puissance créatrice-là, l'action créatrice, elle était déjà à l'œuvre avec le Père dans chacun de ses gestes créateurs. Tout ce qui a été fait l'a été avec la participation de Dieu le Fils ou la parole. La cinquième point que ça nous apprend dans le verset 4, en elle était la vie. En elle, en qui? Elle, la parole. En elle était la vie. Alors ça vient établir le caractère vivifiant de la parole. Il ne peut y avoir de vie physique dans le domaine des choses créées si ce n'est en elle et par elle. On comprend-tu? Il ne peut pas y avoir rien de vivant sans que ça soit été fait par Christ et en Christ. Alors, en lui, la vie, non seulement la vie qu'on voit dans les fleurs, les animaux, tout ce que tu voudras, mais tout ce qui s'appelle vie, c'est lui qui en est le responsable et le souteneur. Il soutient la vie. Non seulement ils l'ont créé, la vie, au début, mais il la soutient. Alors, ici, on a la réponse biblique au problème de l'origine et du maintien de la vie sous toutes ses formes. C'est la parole qui donne et qui maintient la vie. Alors, faut se rendre compte, là. Jésus, c'est lui qui est la source de toute forme de vie. Pensez-y, c'est large. Là, je ne sais pas si notre esprit est assez large pour voir tout cela, là. Des milliers et des milliers et des milliers d'espèces. La terre est pleine de vie sous toutes les formes. C'est lui qui en est la source. Et c'est lui qui la maintient, cette vie-là. Si Dieu, Jésus, arrêtait de penser à nous maintenir en existence, tout retournerait au néant. Alors, les choses créées n'ont pas la vie en elles-mêmes, elles l'ont par la parole, la deuxième personne de la divinité. Il faut se rendre compte de ça, là, quand on se promène, là, surtout l'été, on le voit peut-être encore plus, tout ce qu'il y a de la vie dedans, c'est lui qui en est la source et c'est lui qui la maintient. On regarde un ver de terre, on regarde n'importe quoi qui est vivant. C'est à cause de lui que toutes ces choses-là sont maintenues à l'existence. Et la sixième chose qu'il veut nous apprendre sur Christ dans le passage de Jean 1 à 14, ça dit « Et la vie était la lumière des hommes » dans le verset 4. Alors ça vient établir l'action révélatrice de la parole. En apportant la vie, la parole apporte aussi la lumière. Je veux dire par là que le simple fait pour l'homme de vivre dans un monde créé par Dieu l'expose déjà à la révélation de Dieu. On sait Jésus? Non? La vie, c'est la lumière des hommes. Donc, le fait d'être dans la vie, automatiquement, ça vient nous donner que le monde créé par Dieu, ça nous expose à sa révélation. Un peu comme on lit dans Romains 1, quand on dit que les hommes n'ont pas d'excuses parce qu'ils ont la création. Autrement dit, la création que Dieu a donnée, c'est elle qui vient révéler l'existence de Dieu. Donc, quand ça dit « Et la vie est à la lumière des hommes », et dans le verset 14, donc la septième chose que ce texte-là nous apprend sur qui était la parole, c'est vraiment « Et la parole a été faite chair ». Pareil comme nous autres. La parole a été faite chair. Ceci établit l'incarnation de la parole. Le bébé, dans la crèche de Bethléem, n'était autre que la parole éternelle de Dieu. On fait la révision des sept choses qu'on a dit, que ça dit dans le verset. C'était le caractère éternel. Donc, on apprend le caractère éternel de Christ. On apprend le caractère personnel de Christ. Il était une des trois personnes de la Trinité. On apprend le caractère, la nature divine de la parole. Quatrièmement, on apprend l'action créatrice de la parole. Tout a été créé. Sa participation a été dans toute la création complète. Cinquième chose, le caractère vivifiant. Donc, c'est lui qui est la source et qui est le maintien de toute vie. Cinquièmement, la parole révélatrice, à cause du fait qu'il a créé ça de la lumière, ça fait en sorte que même la nature est une lumière pour l'homme, pour se rendre compte que ça ne s'est pas fait tout seul. Dieu est en arrière de ça. Jésus-Christ est en arrière de ça. Et la septième chose qu'on a vue, c'est que la parole a été faite chair. Ce qu'on vient de nommer sur la parole, là, c'est ce grandiose personnage-là qui est venu, qui s'est humilié, qui s'est dépouillé, qui s'est appauvri pour venir se présenter dans une chair, dans une famille de pauvreté, dans le plus petit village, un des petits villages d'Israël à l'époque, Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Alors, ce n'est qu'après nous avoir expliqué qui est la parole, une personne divine, créatrice de toutes choses, Jean attire l'attention de son lecteur sur une identification. L'incarnation, nous dit-il, a révélé que la parole était le Fils de Dieu, parce qu'il dit dans le verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire. » La gloire, c'est la manifestation de tous les attributs de Dieu de façon simultanée. Donc, en voyant Jésus, ça a pris du temps. Les apôtres ont compris ça par petits bouts. Ça a pris vraiment presque toute leur vie. Ça a été après la résurrection avec qui ont compris vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Parce que des fois, il y avait des petits éclairs de génie. Pierre disait, tu es le Fils de Dieu. Et donc, il l'identifiait au Messie, mais pas bien longtemps après. C'est comme, on aurait dit qu'il y avait une confusion terrible dans leur esprit. Mais maintenant, quand il dit dans le verset 14, « Nous », alors quand il dit « nous », bien entendu, Jean parle de lui et les apôtres, « nous avons contemplé sa gloire ». À quoi il fait référence quand il dit ça? Probablement à sur la montagne, la transfiguration. Là, ils ont compris qui Jésus était. Mais ça s'est fait tout par, on dirait, par petits morceaux, comme un gros casse-tête. Les morceaux, ça a pris du temps avant qu'ils les voient et tout. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il comprenait, dans le verset 14, Jean comprend que toute cette gloire-là, c'était la gloire qui était venue du Père. Et si on va un petit peu plus loin, dans le verset 18, confirme l'identification de la personne qui était pour s'incarner. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Alors, si on va dans le verset 18, qu'est-ce que ça dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, comment Dieu, c'est Jésus qui fait connaître Dieu le Père. Alors, lorsque la Bible proclame que Jésus est le Fils de Dieu, il faut donc voir dans cette proclamation une affirmation de sa divinité personnelle et distincte. Non seulement il était Dieu personnellement, mais il était distinct du Père et du Fils. Donc, le message de Noël repose sur ce fait bouleversant. L'enfant de la crèche était Dieu. C'est spécial. Deuxièmement, on a dit qu'on avait deux choses qu'on voulait regarder, qui étaient le côté mystérieux des Écritures. Le bébé né à Bethléem était Dieu, mais le bébé né à Bethléem était Dieu fait homme. Il y avait quelque chose de spécial. La parole a été faite chair, un vrai bébé humain. Ceux qui sont allés à l'étable, qui ont vu le bébé dans la crèche, ils ont vu le bébé comme n'importe quel bébé que nous, on voit aujourd'hui quand on voit un bébé. Et il était bébé, mais sans cesser d'être Dieu en même temps. Il n'était pas moins Dieu qu'auparavant. Mais cette divinité-là avait commencé à être homme. Jésus n'était pas moins quelques attributs de sa divinité. Quand on parlait de la kénose tout à l'heure, la kénose, c'est la doctrine selon laquelle c'est comme s'il y avait quelque chose de la divinité qui s'est perdue quand Christ s'est incarné. Alors ça a amené toutes sortes, une série d'erreurs dans la théologie. Jésus, qui était dans la crèche, n'était pas moins Dieu, n'était pas Dieu moins quelques attributs. Dieu moins l'omniscience, parce que si tu es Dieu moins l'omniscience, tu n'es plus pleinement Dieu. Alors la kénose, il faut savoir un petit peu l'expliquer. Alors, mais c'était Dieu plus tout ce qu'il s'était approprié en revêtant l'humanité. Les théologiens s'entendent tous là-dessus, le mystère de l'incarnation est insondable. Comment un Dieu si merveilleux, si glorieux, si infini dans chacun de ses attributs, ait pu se joindre à une chair d'homme dans le but de devenir le Messie qui avait été prophétisé depuis Genèse 3:15. Alors, nous sommes incapables de l'expliquer pleinement, mais nous ne pouvons que le formuler. Alors, je vais vous lire le symbole d'Athanase. Le symbole d'Athanase, c'est un symbole, ou un symbole, c'était comme une confession de foi. Alors, on le sait, au cours de l'histoire, les chrétiens ont développé des confessions de foi pour expliquer des positions sur qui était Jésus, qui était, qu'est-ce que le salut, etc., etc. Je vais vous lire le texte intégral du symbole, le dernier paragraphe du symbole d'Athanase. Ça dit, « Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi en l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc la foi droite que de croire et de confesser notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu de la substance du Père engendré avant les siècles et il est homme né de la substance de sa mère dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et de chair humaine, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité, mais bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un Christ. Ça, c'est... Au cours de l'histoire, ça a créé toutes sortes de problèmes. Quand on étudie l'histoire de l'Église, l'arianisme, tout ça, les problèmes étaient toujours sur la question de la divinité. Et on ne comprenait pas que Jésus pouvait être pleinement Dieu et pleinement homme en même temps. Donc, il y avait toujours... Soit qu'on niait son humanité, on disait que c'était juste une apparence, ou soit qu'on niait sa divinité. D'accepter les deux en même temps, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'études, beaucoup de théologiens qui se sont penchés sur toutes les affirmations et les versets que les Écritures donnaient pour formuler qu'est-ce qu'on se doit de croire selon les affirmations des Écritures. Alors ça dit, un, non pas parce que la divinité a été transformée en la chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Un, absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de la personne. Car de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même Dieu et l'homme font un Christ. Il a souffert pour notre salut, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps, et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux qui ont mal agi au feu éternel. Alors, le symbole d'Athanase, c'était un effort pour essayer de régler tous les problèmes qui semblent contradictoires. Il y en a qui ont nié son humanité, comme je vous disais, pour régler le problème d'essayer d'harmoniser les versets, ou soit qui ont nié sa divinité. Et ça a été tout au cours de l'histoire. Rien de nouveau sur le soleil. Mais les Écritures nous affirment les deux. Jésus est pleinement Dieu, Jésus est pleinement homme. C'est le seul personnage qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus fait homme. Alors, ce qui se passait le jour de l'incarnation, c'était quelque chose d'extraordinaire tellement extraordinaire que ça crée tellement toutes sortes de problèmes dans nos esprits qu'à quelque part, ça a pris beaucoup, beaucoup d'hommes régénérés qui se sont penchés sur les Écritures dans le but d'essayer d'harmoniser tout ça. Très, très, très important de se rendre compte du côté insondable, du côté merveilleux qu'on a vu tantôt. C'est vraiment, il y a un côté mystérieux à ça. Alors, la deuxième chose qu'on veut regarder, c'est vraiment l'incarnation de nécessité. Est-ce que c'était nécessaire que Dieu le Fils vienne s'incarner dans une chair d'homme et qu'il devienne, pas deux personnes, une personne, mais deux natures dans la même personne? Alors, est-ce que c'était nécessaire? Si ça n'avait pas été nécessaire, pensez-vous que Dieu aurait agi de cette façon-là? C'était nécessaire. Pourquoi la pleine humanité de Jésus était-elle nécessaire? Alors, quand on regarde, moi, je me suis servi de Wayne Grudem, dans son livre de théologie systématique. Il pose la question suivante dans son volume. Pourquoi la pleine humanité de Jésus était-elle nécessaire? Autrement dit, pourquoi il fallait que Dieu soit un homme pour que nous, on puisse profiter du fait qu'aujourd'hui, on est sauvés? Si je vous disais, nommez-moi sept raisons. On n'ira pas avec question-réponse avec la salle, parce que ça va, on risque que ça soit long. Mais la première, c'est pour nous représenter. Représenter et obéir à notre place. On sait que Dieu avait... On a hérité de la nature d'Adam, parce qu'Adam a péché, on héritait de sa nature. Donc, c'était le premier Adam. Le deuxième Adam, donc ça prenait une personne humaine pour faire à la place d'Adam ce que Adam n'avait pas réussi. Lui, il fallait qu'il le réussisse, mais qu'après sa réussite, il pouvait la donner aussi à ceux qui étaient en lui. Alors, Jésus était notre représentant et a obéi pour nous là où Adam avait échoué et désobéi. Quand on lit la mise à l'épreuve d'Adam et d'Ève dans le jardin, dans Genèse 2, Genèse 3. Dans Romains, le chapitre 5, ça nous dit qu'il nous fait voir le parallèle, on en a parlé quand on étudie Genèse, le parallèle entre le premier Adam et le deuxième Adam. Dans Romains 5, versets 18 et 19, ça dit « Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes. » On parle de la faute de qui? La faute du premier Adam. « Un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. » Si Jésus, comme homme, n'avait pas accompli à notre place, ce qui avait été commandé à Adam, on n'aurait pas pu avoir le salut. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu que son Fils s'incarne dans une chair d'homme. Alors, ça nous dit, si on irait, on ne fera pas une étude là-dessus ce matin, premier et deuxième Adam, là, mais si on va dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, on appelle Adam le second homme, 45-47. Alors, c'est vraiment pour nous faire comprendre que, vu que le premier a manqué son coup, il a chuté, le deuxième, lui, a accompli. Donc, il est devenu notre représentant. Il a obéi à notre place. Donc, le deuxième Adam devenait le représentant et obéissait à notre place. Donc, ce qu'on appelle la substitution, se substituer à nous, parce que le devoir d'obéir complètement à Dieu était encore sur nous. Donc, aussi, pour représenter et obéir à notre place, ça c'est un. Deux, pour être un sacrifice substitutif. Autrement dit, quand on péchait, ça nous aurait valu d'aller périr, souffrir en enfer pour l'éternité. Alors, ça prenait quelqu'un qui n'avait pas la nature pécheresse, c'est pour ça qu'il est venu au monde il était par le Saint-Esprit, il a mis Marie n'est pas l'enfant qui est sorti de Marie, c'était pas l'union d'un homme et d'une femme, c'était par le Saint-Esprit. Donc quand il est venu au monde, il n'avait pas la nature pécheresse, donc il n'avait pas il n'était pas automatiquement condamné à vivre en enfer. Mais pourquoi il a accepté de subir le châtiment des hommes, des élus? C'est justement, il voulait être un sacrifice substitutif. Malgré le fait qu'il n'avait jamais péché, qu'il était impeccable, qu'il n'a jamais péché une seule fois durant toute la vie terrestre dans laquelle il était ici, à partir du moment qu'il était bébé jusqu'au moment qu'il est mort, il n'a pas fait un seul péché, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, ni par omission, ni quelque faute secrète que ce soit, impeccable. Dieu a accepté que lui, volontairement, veuille prendre notre place pour subir le châtiment que nous aurions dû subir, de le prendre à notre place. Donc, la deuxième raison pour laquelle il est incarné, la première, c'est pour nous représenter et obéir à notre place. La deuxième, c'est pour le sacrifice, être un sacrifice substitutif. Autrement dit, il venait se substituer à nous sur la croix. Et le châtiment que Christ a pris, c'était pas le châtiment qui aurait dû être sur lui parce qu'il n'était pas, il a fait aucun péché, c'était le nôtre. Alors là, il faut vraiment comprendre que tout, c'est à cause de l'incarnation que tout cela rentrait dans le monde. La troisième raison, c'est pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, ça nous dit qu'il y a un seul Dieu, et de même, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, il fallait, je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les leçons qu'on a faites dans le tabernacle, mais le sacrificateur, c'est lui qui devenait l'intermédiaire, parce qu'il fallait qu'il rentre dans le Saint des Saints juste une fois par année, il devenait l'intermédiaire entre Dieu, lui était l'intermédiaire, et les hommes, les autres, le reste, le peuple juif. Alors, le souverain sacrificateur devenait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est, à cause de son humanité et de sa divinité, qui étaient jointes ensemble, devenait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'était absolument nécessaire. Quatrième raison, celle-là, on se rapportait à l'oublier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le livre de la Genèse, Dieu demandait à Adam, lui avait dit de gouverner la création. Est-ce qu'il l'a gouverné pleinement? Il ne l'a pas gouverné. Donc, il fallait qu'il y ait une personne qui remplace Adam dans la gouvernance de la terre. Alors, on avait parlé du but dans lequel Dieu a créé l'homme. Dieu a mis celui-ci sur la terre pour être son représentant et, en tant que tel, soumettre et gouverner la terre. Mais au lieu de cela, l'homme est tombé dans le péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est conscient que l'intention de Dieu était que tout soit soumis à l'homme, mais il admet, dans Hébreux, chapitre 2, verset 8, qu'actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Alors, un des buts de l'incarnation, c'était pour démontrer que Dieu avait donné au premier Adam que tu vas gouverner, que tu vas soumettre la terre. Mais ça nous dit dans Hébreux 2, 18 qu'on ne voit pas encore pleinement. Mais Jésus va assumer ce rôle-là. Alors, il s'est montré capable d'obéir à Dieu. Et de ce fait, il a reçu le droit de gouverner la création en tant qu'homme, accomplissant ainsi le dessein original de Dieu en plaçant l'homme sur la terre. Donc, accomplir le dessein original de Dieu pour l'homme de gouverner, c'est un quatrième. Là, prenez des notes, alors je vais vous faire un devoir, il va falloir que vous mettiez sur un papier les sept. Là. La quatrième, la quatrième était donnée, la cinquième. La cinquième, c'est pour être un exemple et un modèle pour nous. Si on lit les évangiles, les quatre, on regarde la vie que Jésus a menée, n'est-il pas un vrai modèle pour nous? Il était riche, il s'est appauvri, il s'est donné toute sa vie. C'est un exemple de soumission à la volonté du Père, un exemple d'amour, de charité, de miséricorde, de tout ce que vous voulez. Cherchez une qualité, vous allez la trouver en Jésus-Christ, bien entendu. Donc, un exemple et un modèle pour nous. Dans 1 Jean 2, verset 6, ça dit « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu a permis que Jésus vienne sur la terre, on en a nommé plusieurs, mais la cinquième, c'est vraiment pour qu'il soit un exemple et un modèle pour nous. La sixième, c'est aussi pour être le modèle de notre propre résurrection corporelle. Quand Jésus est ressuscité, il y a des apôtres qui disaient « Ah, oh, bon, tant que je n'aurais pas mis mon doigt dans le trou, Thomas, entre autres. » Est-ce que le corps de Jésus était le même qu'avant qu'il meure? Non. Un corps ressuscité n'est pas le même qu'un corps avant la résurrection. Alors, c'était une façon pour Dieu de nous montrer que notre propre résurrection corporelle... Regardez, on va lire dans 1 Corinthiens... Alors, Paul nous dit que lorsque Jésus est resté des morts, il est ressuscité dans un nouveau corps qui était incorruptible, plein de force, glorieux, régi par l'Esprit, dans 1 Corinthiens 15. Vraiment, 1 Corinthiens 15, c'est un chapitre clé pour comprendre la question du corps qu'on a présentement et du corps qu'on va hériter quand on va vivre avec Jésus. On va avoir encore un corps, mais ce ne sera pas le corps actuel. Parce que là, on parle d'un corps rempli d'infirmités. Là, on parle d'un corps qui va être incorruptible. Alors ça vient représenter le modèle de notre corps, car Christ est le premier fruit de la moisson, comme ça dit dans 1 Corinthiens 15, verset 23. Alors, comme ça dit dans 1 Corinthiens 15, 49, « Comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. » Donc, l'image de l'homme terrestre, c'était dans le premier Adam. L'image de l'homme céleste, avec notre nouveau corps ressuscité, qui est celui qui va ressembler à celui que Jésus-Christ avait au moment de sa résurrection. Donc, pour être un modèle de notre propre résurrection corporelle. Par le fait qu'on a vu ça dans les Écritures, on sait que notre corps qu'on va avoir quand on va ressusciter, qu'on va aller au ciel, ça ne sera pas le même corps qu'on a présentement. Parce que celui-là, il est mortel, celui-là, il porte des infirmités, tandis qu'il a, il nous dit que ça va être un corps glorifié. Et la septième raison, c'est pour compatir en qualité de souverain sacrificateur. Quand on avait étudié l'Épître aux Hébreux, on avait lu que puisque lui-même a été éprouvé dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Donc, le Seigneur, dans Hébreux chapitre 2, verset 18, et dans Hébreux chapitre 4, verset 15 et 16, Jésus savait ce que c'était la souffrance des hommes, et ça lui donnait, par le fait même, la compréhension de ce que nous on vit. Ayant été homme, ayant connu ce que c'est les souffrances des hommes, l'épreuve, ce que c'est d'avoir été tenté, alors il n'aurait pas pu connaître l'expérience que nous traversons s'il n'avait pas été lui-même tenté. Parce qu'il a vécu en tant qu'homme, il peut compatir pleinement avec nos expériences. OK, maintenant, on va faire un test. Renommez-moi les sept raisons pour lesquelles il fallait que Christ soit un homme. C'est sûr, des fois, on dit, OK, on l'a pas retenu, mais dans le fond, on l'a retenu. C'est que si je vous les redirais, vous direz, ouais, OK, je m'en souviens. On s'en souvient, mais on a de la misère à les mettre ensemble. C'est quand on fait une étude comme ça, que dans une petite courte période de temps, on voit tous les différents aspects pourquoi Jésus fallait qu'il s'incarne dans une chair d'homme. Et toutes ces choses-là, c'est des choses merveilleuses. Maintenant, on va regarder le troisième point. Le troisième point, c'est vraiment l'incarnation qui est une bénédiction. Bien entendu, à cause du fait qu'il était Dieu, qui s'est incarné dans une chair de bébé, qui a mené une vie de perfection, que sur la croix, il a pris notre châtiment et tout ça, ça nous amène des bénédictions. Alors, quand on étudie la théologie, on parle souvent d'une partie de l'œuvre de Christ comme étant les offices de Christ. C'est quoi les trois offices de Christ? Sacrificateur ou prêtre, roi, prophète. Est-ce qu'on bénéficie du fait que Jésus est venu parce qu'il est le prophète? Dans Deutéronome, chapitre 18, versets 15 et 18, l'Ancien Testament avait prédit l'envoi d'un prophète. Mais est-ce que c'était le prophète, un prophète n'importe quel comme prophète ordinaire? Parce qu'il y a eu plein de prophètes dans l'Ancien Testament. Mais quand le Deutéronome 18 nous parle du prophète, est-ce qu'il parle d'un prophète, est-ce qu'il parle de Jésus-Christ comme une prophétie? Oui. Ça dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Tout ce que je lui commanderai. Alors Jésus, il avait déjà prophétisé qu'il arriverait, le Messie aurait un office prophétique. Il serait un prophète. Mais on va voir qu'il n'est pas le prophète ordinaire. Maintenant, est-ce que le Nouveau Testament a reconnu que l'accomplissement de Deutéronome 18 est arrivé? On l'a, par exemple, Pierre a identifié le Christ comme le prophète annoncé par Moïse, dans Actes 3, versets 22 à 24. Il dit, « Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé successivement depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. » Et vous, l'ensemble des prophètes que Dieu avait choisis dans l'Ancien Testament, ils prophétisaient sur l'arrivée du prophète, le prophète. Alors Jésus n'était pas simplement un messager transmettant la révélation divine comme tous les autres prophètes, mais il était lui-même la source de la révélation divine. Vous vous souvenez-vous quand on a étudié Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, qu'est-ce que ça disait? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc il est en train de dire que dans l'ancien temps, amené jusqu'à l'arrivée de Jésus, Dieu parlait par l'intermédiaire des prophètes. Mais dans le verset 2, ça dit, « Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. » Donc, il parlait plus, il parlait direct, c'est comme si Dieu parlait directement, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Alors, les gens de l'époque, quand Jésus est venu, étaient enténébrés, aveugles et ignorants. Ils avaient besoin du grand prophète pour les éclairer, pour les enseigner, pour les instruire et pour leur faire connaître la volonté de Dieu. Alors, Christ exerce encore son ministère de prophète par les moyens suivants. L'explication des Écritures. Vous vous souvenez, les disciples d'Emmaüs? Ils retournaient à Jérusalem, il y avait eu la crucifixion, ils ne comprenaient plus rien. On pensait que c'était le Messie, c'était pas le Messie, on pensait que c'était le Messie, mais eux croyaient que c'était pas le Messie parce qu'il est mort. Donc, ça se peut pas, un Messie brut, ça devait être un roi qui devait régner militairement. Il était mort, donc ils ne comprenaient plus rien. Jésus lui a expliqué les Écritures, et là, ils ont dit, on sentait notre cœur se réchauffer. Est-ce que Jésus accomplit encore son œuvre de prophète, dans le sens qu'il nous aide à comprendre les Écritures? Bien sûr. Aussi, il le fait par l'instruction des disciples. Il le fait par la grande commission. Il le fait par le fait qu'il nous dit qu'il va être présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il le fait aussi en utilisant ses ministres et ses serviteurs comme messagers jusqu'à ce que ses élus soient rassemblés. On se rend-tu compte qu'on n'est pas un gros groupe ici ce matin, hein?
Mais Dieu se sert d'un serviteur pour vous parler. Alors, il exerce son ministère de prophète. Des fois, il peut le faire directement, mais des fois, il fait il utilise quelqu'un pour faire ce qu'il lui veut. Maintenant, l'office de sacrificateur, on comprend, elle comprend au moins trois choses. Est-ce que vous en souvenez par cœur? Donc, le sacrifice, il fallait que, à cause de son office de sacrificateur, que ce soit lui qui peine la punition sur lui des péchés. Donc, le sacrifice pour le péché et les sacrifices pour les péchés. Donc, pour le péché, c'est celui d'Adam. Pour les péchés, c'est les nôtres au complet. Donc, il devenait celui par lequel Dieu pouvait exercer sa justice sur son Fils. Mais il l'exerçait sur lui, mais pas parce que lui avait fait quoi que ce soit d'incorrect. C'est qu'il l'exerçait, il lui faisait subir notre punition. Quel est l'autre aspect de l'office de sacrificateur de Jésus-Christ? Intercesseur. Ça, c'est d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous qui avons reçu le salut, s'il n'y avait pas quelqu'un qui est Jésus-Christ lui-même dans le ciel, en train d'intercéder pour nous tout le temps, pensez-vous qu'on se rendra au bout? C'est très important, le ministère d'intercesseur de Christ. Ça nous dit, dans Romains 8, 34, « Qui les condamnera? » En parlant des élus. « Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ce n'est pas le seul passage qui parle que Dieu, que Jésus-Christ intercède pour nous, mais ça en est un important. Donc, il fallait qu'il soit notre sacrifice. On profite de son office de sacrificateur parce qu'il a été notre sacrifice. Il est aussi notre intercesseur. Mais il y en a un troisième que souvent on oublie. Et c'était celui de la bénédiction. Parce que le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le... quand il sortait, il bénissait le peuple. Voyez-vous, depuis quelque temps, on fait la bénédiction à la fin du culte parce que Dieu veut vous bénir. Alors, quand on regarde... Alors, les sacrificateurs de l'Ancien Testament se devaient de bénir le peuple. Deutéronome 21, verset 5. « Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure, afin qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. » Autre chose, acte 2. Versets 25 et 26, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vous, avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » De qui parlait la postérité, c'était qui? Jésus. « Alors, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, en Jésus-Christ. » Et verset 26, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. » Alors, Dieu, Jésus, envoie des bénédictions sur nous à longueur d'année. Des fois, on le dit souvent, « Ah, eux, une bénédiction. » Mais ils viennent de où? Ils viennent de Christ. À cause de Christ qu'on peut l'avoir. Et bien entendu, on avait la troisième qui était celle de roi. On sait que Christ est roi. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? On se devrait d'imiter le Maître en nous dépouillant, en nous appauvrissant, en nous dépensant pour enrichir notre prochain, en offrant notre temps et en ne ménageant ni notre peine, ni notre argent, ni nos soins pour faire du bien aux autres, comme Christ l'a fait pour l'humanité, pour les élus, ne serait-ce pas là le véritable esprit de Noël? Ceux qui témoignent d'un tel esprit ne sont pas aussi nombreux qu'ils se devraient de l'être. Si Dieu, dans sa grâce, nous revivifie, une des œuvres qu'il accomplira certainement sera de susciter en nous, dans nos cœurs et dans nos vies, davantage de cet esprit. Si nous désirons être renouvelés spirituellement, il est une chose que nous devrions faire, chercher à développer en nous cet esprit-là. 2 Corinthiens 8, 9, Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Philippiens, on finit là-dessus, Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors, la fête de Noël peut être pour nous un modèle de comment se comporter dans la vie. On peut se dépenser pour les autres comme Christ a fait. Alors, la doctrine de l'incarnation, elle est riche en toutes sortes d'applications qu'on peut faire. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir authentiquement les sentiments de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen.